France Info.
Gilbert Collard, député Rassemblement National du Gard, bonjour et bienvenue.
Bonjour, bonjour.
Emmanuel Macron arrive en Corse tout à l'heure, mais les élus nationalistes vont boycotter sa visite. Est-ce qu'ils ont raison de le faire ?
Non, franchement, je crois que, quelle que soit la région de France, c'est la France. Et quel que soit l'état de M. Macron, il est le président de la République. Hein, donc, on se doit, qu'on habite la Corse, qu'on habite le Gard ou qu'on habite... la Provence, de recevoir le président de la République en tant que tel, voilà.
Le président de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamoni, était l'invité de France Info ce matin, et voici comment il justifie la position des nationalistes.
Nous ne pouvons pas accueillir M. Macron comme si tout s'était passé normalement depuis un an et demi. Parce que ce qui s'est passé depuis un an et demi, ça a révulsé les Corses, et pas seulement ceux qui ont voté pour nous. Je peux vous dire qu'il y a des Corses aujourd'hui qui nous disent « Je ne suis pas nationaliste, je n'ai pas voté pour vous, mais vous êtes nos élus, et que vous soyez traités par ce mépris, eh bien c'est quelque chose d'insupportable. »
Oui, je comprends.
Il méprise les Corses à vos yeux, mais
Je comprends tout à fait ce que dit M. Talamoni. Mais il y a un principe qui nous dépasse, c'est le principe du respect républicain. Quand le président de la République vient et qu'on est un représentant soi-même de l'État, on le reçoit même si on a envie de vomir. On le reçoit.
Ça vaut aussi, Gilbert Collard, quand le président de la République invite à l'Élysée ?
Non, pour une raison très simple.
Parce que Marine Le Pen n'est pas venue la semaine dernière.
Comparaison n'est pas raison.
C'est pour ça que je pose la question.
Marine Le Pen n'est pas représentante de la Corse, ni du Pas-de-Calais. Elle est chef d'un mouvement politique d'opposition.
Elle était invitée en tant qu'élue du Nord.
Pour fermer sa gueule. Voilà. Je veux dire, on peut jouer à ce petit jeu. Moi, je peux vous entraîner dans les comparaisons labyrinthiques. Hein, mais il faut qu'on ait une honnêteté intellectuelle minimale. On ne peut pas jouer le jeu des comparaisons rhétoriques idiotes. Bon, idiotes entre guillemets, hein, c'est pas pour vous traiter d'idiot, hein, comprenez-le bien. Bon, vous ne pouvez pas mettre sur le même plan une visite d'un chef d'État dans une région, visite dans une institution d'État avec une convocation à l'affirmer dans une assemblée destinée à valoriser le narcissisme du grand débat présidentiel. Ce ne sont pas les mêmes choses.
Mais sur le fond, pour bien comprendre votre position, est-ce qu'il faut inscrire la spécificité corse dans la Constitution comme le réclame
Zinedine Zidane ? Non, à titre personnel, parce que je ne veux pas engager...
Vous soutenez Emmanuel Macron. La position d'Emmanuel Macron.
Je ne soutiens pas la position d'Emmanuel Macron, je dis simplement un principe d'État. Lorsqu'un chef d'État, même s'il est en guenille, se rend dans un lieu de la France à titre officiel, dans un lieu officiel, pour rencontrer un représentant officiel, ce dernier se doit de le recevoir.
La question portée sur le fond, sur la revendication des nationalistes, ils veulent inscrire la spécificité corse dans la Constitution, ils veulent aussi l'amnistie de ceux qu'ils appellent les prisonniers politiques. Y a-t-il à vos yeux, Gilbert Collard, des prisonniers politiques ?
Non, il n'y a pas de prisonniers politiques, et Dieu sait que j'aime la Corse, de si que j'ai des amis corses, mais chaque fois qu'on en discute, les uns du reste ne partagent pas du tout le point de vue de Talamoni et compagnie, les autres oui, mais je leur dis que à ce moment-là, il y a une spécificité provençale, une spécificité bretonne, une spécificité de la Bourgogne, etc. Bon, on retourne à l'état des provinces d'autrefois. Bon, il faut quand même être adulte politiquement, même si la Corse a droit à un traitement particulier du point de vue du respect de sa langue, de son histoire, ce que l'on doit, à mon avis, faire. Parce que la question des langues régionales est très importante, et là, on n'y accorde pas, me semble-t-il, le respect mérité.
C'est la dernière étape du Tour de France d'Emmanuel Macron post-grand débat. Est-ce que pour vous, il est temps que ce débat se termine et qu'on arrive au concret ?
C'est-à-dire qu'une fois que le débat sera terminé, on se demande ce que va faire M. Macron. Parce que c'est quand même extraordinaire l'organisation de ces débats, enfin... Il y en a un qui a duré, je crois, il a parlé pendant 6 heures.
Un peu plus que ça même.
Un peu plus que ça. Il paraît que Castro, de là-haut ou d'en bas plutôt, a dit qu'est-ce qu'il est fort.
Castro était tout seul à la télévision. Là, il y avait des gens autour d'Emmanuel Macron.
Ah, mais voilà, il y avait des gens autour de lui. Oui, ça change tout.
Il vous épate, Emmanuel Macron, par ses performances
Mais non, mais c'est... Attendez, mais moi, je vous donne mon point de vue. Vous n'êtes pas obligé de le partager, bien évidemment, et heureusement. Mais c'est une espèce une hypertrophie narcissique qui est colossale, quoi. Il parle tout seul dans une espèce de forum souvent commandité. De là, rien pour l'instant n'est sorti. Au cœur du mouvement des Gilets jaunes, au-delà de l'analyse globale qu'on peut faire, il y a quand même une volonté d'avoir un rapport direct, une représentativité plus directe. Hein, on est d'accord, ce qui relève quand même d'une certaine forme de contestation de l'organisation politique. À cela, quelle réponse ? Un homme seul, qui parle seul, qui soliloque, qui détient la vérité, qui seul répond à toutes les questions. Mais c'est à l'opposé de tout ce que les Gilets jaunes voulaient. Qu'est-ce qui lui a pris ? Qu'est-il allé faire dans cette galère ? Et pourtant, de vouloir être le seul qui peut répondre.
Et pourtant, ces dernières semaines, on l'a vu dans les sondages, sa cote de popularité est plutôt remontée au gré de ce grand débat.
Elle rebaisse.
Ce grand débat, l'a servi.
Elle rebaisse.
Qu'est-ce qu'il peut annoncer à la fin, alors?
Elle rebaisse. Hein.
Qu'est-ce qu'il peut annoncer à la fin de ce grand débat? Il faut quoi comme réforme institutionnelle? Le RIC, le fameux référendum d'initiative
citoyenne? Mais je crains fort qu'on ait une dépression post-débat. Parce que rien ne va pouvoir sortir de cette espèce de salmigondi dont du reste on ne connaît toujours pas les directions. Hein. On ne sait pas à l'heure actuelle quelles vont être les grandes leçons qu'on va tirer de ce débat.
Vous savez déjà qu'il n'en sortira rien.
Il n'y a pas que moi. Attendez, les Français ont été sondés quand même là-dessus.
Mais avant que ça commence, Gilbert Collard, beaucoup de gens disaient personne s'y intéressera, il n'y aura pas de contribution, personne n'ira dans les débats. Il y a eu du monde, il y a eu des contributions.
Attendez, mais à l'échelle du pays, là aussi je crois qu'on doit tous... Moi, quand j'ai tort, je dois le reconnaître. Vous aussi, il faut. Les gens ont besoin d'un peu de simplicité, quand même. Bon, on y a cru au grand débat parce qu'on s'est dit ça va être une espèce de forum réinventé, quoi.
Hein. Chez vous, dans le Gard, il n'y a pas eu de cahier de doléances,
non,
par exemple,
qu'on
fait remonter.
Non, pas à ma connaissance.
Vous n'avez pas constaté dans votre département.
Mais les gens s'en foutent, quoi. Bon, franchement, ils se foutent pas du grand débat. En ce sens qu'ils ont envie de parler, regarder dans les chaînes de télévision quand on les invitait, comme ils étaient contents de pouvoir s'exprimer. Bon, mais ce soliloque présidentiel avec les personnes âgées, avec les jeunes, franchement, comme l'a dit quelqu'un, il manquait que les extraterrestres, quoi. Bon, pourquoi ? Pour aboutir à quoi ?
Voilà, le grand débat, c'était en France. Ce sera également ce soir à la télévision. Là, c'est le débat des européennes qui va se passer sur France 2. Gilbert Collard, on va en parler,
oui.
Si vous le voulez bien, dans quelques instants. 8h40, Stéphane Milhomme, tout d'abord, pour nous résumer l'actualité.
Et ce jour de grève dans les écoles, le mouvement devrait être très suivi dans le primaire. À Paris, le SNUIPP annonce même la fermeture d'une école sur trois. Les enseignants craignent, entre autres, de voir disparaître la fonction de directeur d'école, ce que dément le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Ces prothèses mammaires sont soupçonnées de provoquer des cancers. 15 modèles d'implants mammaires vont être retirés du marché, une annonce attendue aujourd'hui. Il s'agit de prothèses à enveloppe macro-texturée, c'est-à-dire rugueuse. Selon le docteur Jacques Saboy, 8 000 à 10 000 femmes en portent en France. Il réagit à cette information de la cellule investigation de Radio France avec le consortium international des journalistes d'investigation. Emmanuel Macron atterrit en Corse, la 15e et dernière étape du président de la République dans le grand débat national. Il atterrit en fin de matinée dans le village de Cozzano et doit rencontrer les maires. Mais les élus nationalistes appellent à une demi-journée île morte et boycottent ce débat. Maurice Pont, le parolier d'Henri Salvador, est mort à 97 ans. Le travail, c'est la santé. C'était lui, Maurice Pont, a composé également des milliers de chansons pour Michel Fugain ou encore Bourvil. Et puis le PSG face à Rennes au Stade de France le 27 avril, l'affiche de la finale de la Coupe de France de foot. Les Parisiens ont battu hier soir Nantes 3-0 au Parc des Princes.
Info. Gilbert Collard, député Rassemblement National du Gard, est toujours avec nous. La justice a imposé à France 2 d'ajouter 3 candidats lors du débat pour les européennes qu'elle organise ce soir. Il s'agit de François Asselineau, de Benoît Hamon et de Florian Philippot. Est-ce que c'est le boulot de la justice ?
Qu'est-ce que ça va être pénible, hein ? Non, c'est pas le boulot de la justice, non. Non, parce que quel est l'intérêt d'installer ces 3 petite personnalité politique, petite au sens de ce que les sondages leur donnent, de leur permettre de se montrer à la télé, point barre, quoi, c'est tout. Bon, mais ça va complètement plomber l'émission, donc c'est quand même, d'un autre côté, une espèce de gêne démocratique, hein, parce que le vrai débat qui pourrait avoir lieu n'a pas lieu, et de quoi je me mêle, quoi. Ce n'est quand même pas à la justice, quand les formes sont respectées, hein, quand il n'y a pas de grossières violations de l'équité, c'est pas à la justice de décider de la manière dont un débat télévisé peut s'organiser.
Alors c'est à qui de le faire ? Aux chaînes elles-mêmes, aux médias, au Conseil supérieur de l'audiovisuel ?
Je pense que le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourrait avoir son mot à dire. Bon, c'est vrai qu'il y a un discrédit général, hein, sur les journalistes, comme sur la justice, comme sur la politique, comme sur les politiques, pardon. Hein. C'est vrai qu'on est tous discrédités. Hein. Bon, notre parole, par notre faute sûrement, bon, les gens ne la prennent plus et ils ont raison. Pour argent comptant, d'autant plus que l'argent dans ce pays est de plus en plus dévalué. Hein. Mais si on veut une organisation sereine, il faut qu'il y ait une autorité qui puisse en débattre et en décider sans que ce soit la justice. Quoi. De toute façon, dans ce pays, il faut bien se rendre à l'évidence, on fait appel à la justice pour tout et pour rien. Il y a une espèce d'inflation du recours à la justice qui est quasiment de l'ordre de la paranoïa sociétale. Hein.
Y compris d'ailleurs des dirigeants du Front National, souvent dans l'histoire, ils ont trop bien sûr,
mais vous savez, moi, vous me prendrez pas à défaut sur ce terrain, je suis un peu comme Cyrano, mes propres défauts, je me les sers moi-même avant qu'on me les serve, hein.
Et d'un point de vue démocratique, le fait de devoir entendre quand même ce que vous appelez les petits candidats, est-ce que c'est pas une aspiration légitime? Par exemple, ça va nous permettre, et ça va vous permettre d'entendre Florian Philippot, qui était, il y a encore peu de temps, un grand dirigeant du Front National.
J'ai tellement entendu que je m'en passe.
À ce point-là.
Oui, attendez, il a été au front pendant des années et des années.
Ça a été le bras droit de Marine Le Pen
Le bras gauche, plutôt. Le bras gauche.
Et il manque pas au Front National aujourd'hui, Florian Philippot? C'était quelqu'un qui a beaucoup travaillé.
Ah non, je crois pas.
Du programme, qui était qui nous a été présenté comme un cadre, un dirigeant du Front National extrêmement important.
Personnellement, s'il vous manque, je vous présente toutes mes condoléances. Mais moi, il me manque pas du tout, hein.
Donc il faut pas lui donner la parole.
Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas lui donner la parole. C'est fastoche à faire ça. J'ai dit que quand un candidat, du point de vue de la représentation, ne représente rien, ce qui est le cas de Florian Philippot, ça peut ne plus être le cas dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Bon, il ne faut pas abîmer la qualité d'un débat en imposant au nom d'une équité théorique, des candidats qui finalement ne seront pas dans la course. On le sait, voilà. Moi je vois l'intérêt démocratique du débat, là. Hein. Maintenant, si on pouvait organiser un débat audible en faisant venir tous les candidats, y compris ceux qui auront 3 petits pois à l'élection, je suis pas contre, hein, personnellement. Mais on veut quand même utiliser ces débats d'une manière de pédagogie politique.
Gilbert Collard, est-ce qu'il y aura ce soir, lors de ce débat qui va donc réunir 12 personnes, des gens avec qui vous pourriez à nouveau, à l'avenir, faire des alliances? Florian Philippot, on a compris à votre propos que le retour, enfin, c'est un aller sans retour. Nicolas Dupont-Aignan.
Mais moi, je pense qu'on, à titre personnel, moi, j'aime pas engager le mouvement quand je parle. D'abord, je suis pas porte-parole.
Il y a eu fiançailles, il y a eu rupture. Est-ce qu'il pourrait y avoir une nouvelle histoire avec lui?
Il y a eu rupture. Et toute l'histoire de la vie politique, bon, on n'est quand même pas des puceaux de la politique, hein, toute l'histoire de la vie politique montre que on se fâche hier, on se réconcilie demain, c'est toute la trame historique du mouvement, des alliances, des ruptures, des réconciliations, on le sait, donc bien folle celui qui dira « demain, jamais, je n'irai rejoindre un tel pour une alliance », on ne sait jamais comment les choses, dans l'ordre de la vie politique, peuvent s'organiser. Bon. Les traîtres de traîtrise absolue, non, mais ceux avec lesquels...
Il n'en fait pas partie?
Je crois pas, non. Mais ceux avec lesquels on peut avoir des rapprochements, un jour ou l'autre, je dis pas non, hein.
Il y a quelques jours, Gilbert Collard, François Hollande, qui a multiplié les apparitions et les commentaires
politiques...
Oui, c'est
politiques, la vie, il apparaît de temps en temps pour qu'on
les commentaires
sache
politiques,
qu'il existe.
En tout cas, oui. C'est surtout un ancien président de la République. Et il était sur France 2 dimanche soir et il a évoqué la perspective de l'accession un jour du Rassemblement National au pouvoir. On l'écoute.
Il peut y avoir, à un moment, ce risque de passer à l'extrême droite, tout simplement parce que c'est finalement assez généralisé et parce que on ne l'a pas encore essayé. Et c'est pour ça que je pense que la responsabilité, elle est bien sûr celle du pouvoir en place, mais elle est aussi
collective.
Vous êtes au port du pouvoir, Gilbert Collard?
Et moi, je ne peux pas empêcher de rigoler quand je vois François Hollande. Au moins, il était drôle, lui, oui. Le monsieur à moto pour la rue du Cirque, il était drôle, oui.
Mais là, en l'occurrence, il évoque donc l'hypothèse que l'extrême droite
est
celle du pouvoir.
D'abord, je trouve scandaleux. Bon,
ça vous fait
des leçons de ce nul. Personne à en recevoir. Quoi. Bon, il a foutu le Parti socialiste en l'air. Il a même pas été capable de se représenter à l'élection parce qu'il a pris un coup de balai. Sa politique a été un échec sur tous les plans. Bon, il faut quand même que Monsieur Dégas se rende compte qu'il pourrait être un peu modeste. Mais traiter les électeurs du Front National ou du Rassemblement National d'extrémistes de droite, mais de quel droit?
C'est pas ce qu'il fait. Il ne parle pas des électeurs, là. Il parle de l'hypothèse qu'un parti d'extrême droite accède au pouvoir.
Ah, parce que le parti pourrait accéder au pouvoir sans les électeurs?
Parce que le parti est propriétaire de ses électeurs?
Non, mais le parti pourrait accéder au pouvoir sans...
Un parti, à vos yeux, est propriétaire de ses électeurs.
Mais je vois pas le lien entre ce que dit François Hollande et la notion de propriété, moi. Expliquez-moi.
Mais des électeurs peuvent changer, peuvent voter une fois pour un parti, une fois pour un autre parti.
Mais en quoi ça permet de les qualifier d'extrême droite?
J'ai pas entendu dans l'extrait de François Hollande qu'il qualifiait les électeurs d'extrême droite.
Non, il a dit un mouvement d'extrême droite peut arriver au pouvoir. C'est donc que les électeurs qui amèneraient ce mouvement seraient d'extrême droite. Et comme vous faites le lien entre ce qu'il dit et nous, je me permets de vous dire que c'est tout à fait désobligeant de qualifier vos auditeurs peut-être, nos électeurs peut-être, de gens d'extrême droite. C'est encore la vieille tarte à la crème du Parti Socialiste. Des années passées. Hein.
Gilbert Collard, est-ce que vous êtes prêt, au Rassemblement National, à prendre le pouvoir et à l'exercer?
Ah ben, tout à fait.
Il y a une équipe qui est constituée, il y a un gouvernement. Vous seriez où, vous, par exemple?
C'est
déjà, sont des places qui sont déjà
attribuées. Mais je serais peut-être nulle part, mais je vous garantis qu'il y a des gens très compétents. Et comme le dit Hollande, on n'a pas encore essayé. Lui, on l'a essayé, hein, ça c'est sûr. Hein. Bon, c'est vrai que nous n'avons pas été mis
en mesure de montrer... Vous êtes prêt, le programme est là, l'équipe est là.
Pardon?
Le programme est là, l'équipe est prête à gouverner s'il le fallait.
Mais on a une équipe qui est de gens très sérieux qui ont mûri pendant des années et des années dans l'opposition, dans la difficulté, dans la vindicte, hein, et qui ont su se forger vraiment une âme de d'hommes et de femmes d'État.
Hein. On a beaucoup dit que Marine Le Pen n'avait pas suffisamment préparé, notamment le débat d'entre-deux tours de la présidentielle. Elle a depuis travaillé, elle a progressé.
Mais qu'est-ce que c'est que cette légende du bon et du mauvais écolier? Marine Le Pen n'a de leçons à recevoir de personne. Elle a énormément travaillé depuis toujours. Elle maîtrise ses dossiers, mais les journalistes se plaisent et se complaisent à chercher le petit point sur lequel on peut développer pour la mettre en difficulté.
Ce soir-là, elle avait réussi son débat à vos yeux.
Pardon?
Ce soir-là, elle avait réussi son débat, Marine Le Pen, à vos yeux.
Moi, je pense qu'il y a eu des moments de difficulté qui sont liés probablement à l'état de santé de ce soir-là.
C'est-à-dire?
Elle a eu un problème très grave à l'œil, elle l'a expliqué, elle l'a raconté souvent. Et puis, de toute manière, c'est pas sur un débat qu'on juge la carrière d'un homme politique ou d'une femme politique.
Non, mais on sait le rôle d'un débat dans l'entre-deux-tours.
Sinon, Mitterrand, bon, il aurait jamais fait carrière. Hein. Son débat avait été lamentable. Hein. Bon, on peut pas... Et puis, il faut... Et puis, finalement, moi, je crois que vous donnez, vous autres journalistes, beaucoup, beaucoup trop d'importance. Hein. C'est pas parce qu'on n'est pas bon sur un plateau un soir qu'on a...
Ce ne sont pas les journalistes qui ont tranché Gilbert Collard, ce sont les électeurs.
Ah non, mais les électeurs,
au second tour.
Non, mais alors, comme vous avez une tête d'honnête homme,
ah,
je ne sais pas ce que l'intérieur vaut, mais la tête est bonne. Bon,
si je vous le confirme, c'est un honnête homme.
Accordez-moi quand même qu'on ne peut pas dire que c'est le débat qui a provoqué le mouvement électoral.
Ça a eu un effet sur le résultat du second tour.
Et on va s'interrompre, pardon, Gilbert Collard, si vous voulez
effet,
bien.
Mais on ne peut pas le démontrer. Hein.
L'honnête homme va vous couper la parole. 8h51, on se retrouve juste après le rappel des titres. Stéphane Milhomme.
France Info vous le révèle ce matin, ces nouveaux éléments dans l'enquête sur le drame de Mias, la mort de 6 collégiens dans l'accident d'autocar, le médicament contre l'insomnie, l'Imovane que prenait la conductrice, pourrait être à l'origine de ce drame de décembre 2017, un médicament qu'elle a pris pendant 7 ans. Le fabricant, le laboratoire Sanofi, envoie à la justice une photo de la boîte du médicament avec cette mise en garde inscrite dessus, ne pas conduire. Carlos Ghosn dénonce une arrestation révoltante et arbitraire. L'ex-PDG de Renault-Nissan a été une nouvelle fois interpellé la nuit dernière au Japon. Le parquet de Tokyo le soupçonne maintenant d'avoir détourné à son profit 5 millions de dollars. Il a déjà passé 100 jours en détention provisoire. En Grande-Bretagne, les députés votent pour un report long du Brexit pour éviter un no deal. Theresa May cherche toujours un compromis avec son opposition. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, hier est resté ferme. Il n'y aura pas de nouveau report de l'accord si l'accord n'est pas ratifié d'ici au vendredi 12 avril. Noël Le Graët proposera bien, lui, à Didier Deschamps, une prolongation à son poste de sélectionneur des Bleus jusqu'en 2022, année de Coupe du Monde. Le président de la Fédération française de foot souhaite une reconduction en cas de qualification des champions du monde pour le prochain Euro. L'actuel contrat de Didier Deschamps s'achève l'année prochaine.
France Info. Bonjour, avec le député Rassemblement National du Gard, Gilbert Collard. Est-ce que vous auriez souhaité être candidat aux européennes?
Oui. Je vais vous expliquer pourquoi. Du reste, c'est pas dit que ça ne se fera pas, hein, pour être très franc. Je considère que le vrai combat maintenant se mène à Bruxelles et à Strasbourg. Le Parlement n'était pas grand-chose avant Macron, mais depuis, il est devenu une chambre d'enregistrement avec une majorité disciplinaire complètement aux ordres. Moi, j'appelle la majorité applaudisseuse, hein, parce qu'ils se lèvent tout le temps pour applaudir. Bon, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de fond. Le travail parlementaire est bâclé, haché, entassé. Bon, et comme j'ai jamais pu faire semblant, hein, je considère que le vrai combat se mène plus là. Je l'ai dit, du reste.
Vous vous ennuyez, en quelque sorte.
Mais m'ennuyer, ce serait égoïste. Disons que...
Vous n'avez plus d'intérêt à l'Assemblée nationale.
Je m'attriste pour la démocratie parlementaire, quoi. Il faut que ça change, quoi. Il faut que le Parlement national retrouve sa parole.
Et donc, finalement, vous pourriez être sur la liste aux européennes.
Je pourrais.
En position éligible?
Je pourrais, oui.
Ah, c'est nouveau.
Et alors, ça vous gêne?
Non, mais j'étais pas au courant, c'est pour ça que je vous pose la question. Bah, vous seriez en haut de la liste.
Pas au courant. Enfin, un journaliste qui reconnaît qu'il n'est pas au courant.
Marine Le Pen vous a dit d'accord. Vous serez...
Écoutez, elle va présenter la liste bientôt, vous verrez, hein, je pense.
Quelle position vous seriez?
Je ne sais pas. Moi, je suis un modeste.
Ce qui veut dire
un modeste candidat.
Vous pourriez donc quitter l'Assemblée nationale dans quelques semaines.
Je suis très clair, je trouve. Je l'ai dit, mais c'est pas d'aujourd'hui, hein. Je m'étais même fait reprendre par les belles âmes, les belles langues, parce que j'avais dit que je m'emmerdais à l'Assemblée. Bon.
Ça sert à quoi un député d'opposition à l'Assemblée nationale aujourd'hui?
Ben, ça sert à montrer que le peuple est un peu là, quand même, mais c'est une présence symbolique. Hein. Il faut avoir l'honnêteté de le dire, arrêter de se mentir. On a, nous, par exemple, qui représentons 11 millions d'électeurs à peu près, hein, bon, on n'a même pas de groupe parlementaire, c'est-à-dire qu'on nous a muselés, on nous a fait taire, on nous empêche de travailler, on nous empêche...
Pourtant, vous vous êtes représenté en 2017, vous étiez déjà député depuis 5 ans.
On était deux.
Et vous le saviez, ça, que ça ne servait pas à grand-chose, vous êtes quand même représenté devant les électeurs.
Mais c'est ce qui s'appelle avoir de l'espoir.
Vous regrettez voilà. Ce temps-là où vous n'étiez que deux avec Marion Maréchal Le Pen sur les bancs de l'Assemblée?
Ah non, je ne peux pas dire que je regrette. Non, mais je dois être honnête. La qualité du travail dans l'ancien quinquennat, et du point de vue parlementaire, s'entend, était meilleure.
Vous êtes nostalgique de l'ancien monde.
Nostalgique de rien du tout.
Qu'est-ce qui vous manque,
quand
Manuel
je serai
Valls
mort, je serai nostalgique de ma vie, parce que je ne vous verrai plus dans des émissions de télé et de radio, probablement.
Et Marion Maréchal, justement, elle vous manque?
Marion Maréchal, je l'aime beaucoup. Elle ne me manque pas, parce que je la vois, je l'ai au téléphone, je la rencontre. On a travaillé à deux contre tous pendant 5 ans. Accordez-moi que cela crée des liens et des amitiés, hein. Mais j'ai pas à la regretter parce que je la vois, je lui parle, je la rencontre.
Elle manque au Rassemblement National?
Oui, ce serait, c'eût été bien qu'elle restât. Mais elle a préféré devenir enseignante, respectant son choix.
Elle incarne l'avenir de votre parti.
Sire, l'avenir n'est à personne, disait Victor Hugo.
Mais elle serait une candidate pour les années qui viennent.
C'est vous qui le dites?
Non, c'est une question.
Il y a un point d'interrogation.
Oui, il y avait une. Alors, elle serait une bonne candidate dans les années qui viennent.
Alors, serait-elle
une bonne candidate, Gilbert Collard?
Oui, si Marine Le Pen n'était pas candidate, ce qu'elle doit être légitimement.
Ça ne se discute pas.
Marion pourrait être une bonne candidate, mais à ce moment-là, c'est le Congrès qui déciderait. Hein.
On ne discute pas plus au Rassemblement national du nom du candidat qu'on discute à l'Assemblée nationale, évidemment.
Mais cette comparaison est absolument alcoolique.
Non, c'est pas le cas. Les européennes, il y a 5 ans, le Front National, à l'époque, est arrivé nettement en tête, avec 25% des voix. Il doit se fixer, le Rassemblement National, le même objectif, il doit arriver en tête 5 ans plus tard? Ce serait un échec de ne pas renouveler cette performance?
Vous savez, aujourd'hui, qu'est-ce qui est un échec? Qu'est-ce qui est une réussite, hein? Regardez Macron, hein, Monsieur Macron, pardon, la victoire parlementaire qu'il a obtenue, hein, et le résultat maintenant. Donc, il faut être extrêmement modeste dans les analyses politiques qu'on peut faire aujourd'hui. On est beaucoup plus des vulcanologues que des politiciens, parce que on est quand même sur un volcan qui peut à tout moment se réveiller et s'énerver. Donc il faut vraiment, quand on fait des pronostics ou des analyses, se montrer d'une extraordinaire prudence. Bien sûr qu'on préférerait arriver en tête, mais si on n'arrive pas en tête, ça ne veut pas dire que ce sera la fin du monde.
Merci à vous, Gilbert Collard. Donc, probable candidat du Rassemblement national.
Probable.
Aux élections européennes, si on a bien compris vos propos. Merci beaucoup.
Merci.
D'être venu ce matin sur France Info. Dans 2 minutes, il sera 9h.